France Culture, il est midi et demi. L'heure de retrouver les informations avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le gouvernement envisagerait une réduction de moitié des allocations chômage pour ceux qui manqueraient à leur obligation et aussi l'établissement de rapports d'activité mensuels, précision dans un instant avec Annabelle Grelier. La conférence des présidents d'université s'inquiète de la future réforme de l'apprentissage. La CPU affirme qu'elle va mettre à mal tout l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Explication d'Hakim Kasmi. Une première mesure d'apaisement peut-être de Madrid après la victoire des indépendantistes en Catalogne. Les renforts policiers qui avaient été envoyés à l'occasion du référendum interdit du 1er octobre ont commencé à quitter la région. Correspondance avec Marie-Hélène Ballestero. Des évacuations médicales qui commencent pour la Ghouta orientale, cette zone proche de Damas, assiégée depuis des années par le régime et dans laquelle résident encore près de 400 000 personnes prises au piège, précision de Magali Fichter. La sortie aujourd'hui du film de Ridley Scott « Tout l'argent du monde », dont le tournage a été chamboulé par des accusations d'abus sexuels contre l'acteur Kevin Spacey, remplacé donc à la dernière minute du jamais vu à Hollywood, nous dira Louis-Valentin Lopez. Troisième invité pour retrouver le fil de l'actualité cette semaine, le philosophe Dany Robert Dufour pour son livre « Sur la fable des abeilles » de Bernard de Mandeville, fable du début du 18e, que l'on peut sans doute reprendre comme matrice du monde contemporain. On verra ça tout à l'heure avec notre invité dans la dernière partie de la grande table, Raphaël Bourgois.
Eh bien, notre invité nous parlera d'histoire de l'art, puisque nous allons repousser les frontières de l'histoire de l'art. Vous savez, on est dans cette semaine des explorateurs, et notre invité est l'historienne Anne Lafont.
C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Le ministère du Travail envisage un renforcement du contrôle des chômeurs. Note adressée aux partenaires sociaux révélée ce matin par le Canard Enchaîné. Le gouvernement envisagerait donc une réduction de moitié des allocations chômage pour ceux qui manqueraient à leur obligation et aussi peut-être des rapports d'activité qui pourraient être mensuels. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
En quoi consisterait, disons, même si ce n'est pas évidemment un document encore officiel, en quoi consisterait un éventuel durcissement du contrôle par rapport à ce qui existe actuellement ?
Alors actuellement, en cas de recherche d'emploi insuffisante ou de refus de formation, un chômeur peut voir son allocation réduite de 20% pendant 2 à 6 mois. Dans la future réforme de l'assurance chômage, on passerait à une réduction de 50% pendant 2 mois. Donc au durcissement des sanctions s'y rajouterait également un rapport d'activité mensuel que devrait rendre le demandeur d'emploi, listant l'ensemble des démarches qu'il a effectuées pour favoriser son retour à l'emploi. C'est donc plus un durcissement des sanctions qu'un durcissement des contrôles. Les droits et les devoirs des demandeurs d'emploi est déjà longue, hein, plus longue sans doute qu'on a l'air de le croire. Elle est inscrite dans une loi et en 2008, de nouveaux motifs de radiation y avaient été rajoutés, comme ce fameux refus, donc sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, le refus à 2 reprises et toujours sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi, mais le refus de se soumettre à une visite médicale ou encore une absence après convocation sont autant déjà de cas de radiation.
Le député La République En Marche, Sylvain Maillard, défendait ce matin sur RTL ce projet. Il souligne le principe des droits et des devoirs des demandeurs d'emploi.
L'idée, c'est quoi? C'est vraiment droit et devoir. L'idée n'est pas de fliquer, comme j'ai pu l'entendre sur d'autres radios, le demandeur d'emploi. C'est aussi d'être derrière lui en lui disant, voilà, il faut la société vous donne une indemnité chômage. C'est quelque chose d'important qui vous permet aussi de continuer à vivre, de continuer à préparer son projet personnel, mais vous avez le devoir de montrer que vous faites vraiment action de recherche d'emploi. Mais là, c'est aussi notre job de donner les moyens pour que Pôle emploi puisse faire un suivi plus individualisé. Quand vous êtes en recherche d'emploi, vous avez aussi besoin d'avoir presque un coach derrière vous qui soit à l'écoute de vos recherches, de vos interrogations, mais aussi des orientations de ce qu'est le marché du travail à l'heure actuelle.
Sylvain Maillard, donc, avec Jérôme Chapuis, retour vers vous, Annabelle Grelier, est-ce qu'on peut évaluer peut-être l'efficacité de ces contrôles ou de ces sanctions?
Bien, le 22 novembre, Pôle emploi a dressé le premier bilan donc, du contrôle des chômeurs entamé fin 2015. 269 000 contrôles ont abouti à 14% de sanctions. A-t-on noté une baisse du taux de chômage? Chacun sera juge, mais les chiffres ne sont pas probants, n'est-ce pas? Alors, du côté des syndicats de Pôle emploi, on fustige depuis des années l'affectation des agents au contrôle, autant de postes qui, à leurs yeux, ne sont pas dédiés à l'aide pour les demandeurs d'emploi. Et du côté de la direction et de l'exécutif, eh bien, ces contrôles doivent être vus comme du coaching, un suivi du demandeur d'emploi. Quand on y a sorti des sanctions, c'est sans doute plus discutable. Alors que sous le gouvernement Hollande, on reconnaissait que le dispositif de Pôle emploi pour vérifier si les chômeurs recherchaient bien du travail donnait satisfaction, que les équipes de contrôleurs avait été étoffée. Emmanuel Macron semble réclamer une mise en cohérence des sanctions, Antoine.
Alors parmi les réactions encore ce matin, signalé celle de Florian Philippot, qui est le chef de file des Patriotes. Donc c'est une réforme de populisme, une philosophie de la culpabilisation. On va faire porter le chapeau du chômage aux chômeurs eux-mêmes. À gauche, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, fustige une mesure de nivellement par le bas. Et le Parti Socialiste demande au président de la République et au Premier ministre de ne pas laisser à Pierre Gattaz le rôle de conseiller social de l'exécutif. Encore une petite question à Annabelle Grelier. Est-ce que cette mesure, qui était effectivement demandée par le MEDEF, a un arrière-plan, peut-être ? Quel est son intérêt, en tout cas idéologique ?
Bien, c'est sûr, quels que soient les gouvernements, c'est toujours le patronat qui pousse au contrôle des chômeurs et les politiques y répondent avec plus ou moins de démagogie. Vous vous souvenez, on a eu la sistanade, Laurent Wauquiez et ses milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus, dont on devait dresser la liste au MEDEF, les allocations décroissantes, bref, le chômage de masse est l'écueil de tous les gouvernements et, s'il fallait le rappeler, la hantise de tous les employés. Car le chômeur égale fainéant quand les plans sociaux se succèdent est tout de même de plus en plus difficile à soutenir. La nouveauté que veut apporter Emmanuel Macron, sans doute, car il en faut bien une, est en effet un changement de philosophie par rapport à l'état-providence de notre système social. Emmanuel Macron expliquait pendant la campagne qu'il voulait que les Français sortent réellement d'un système assurantiel où chacun se dit « j'ai cotisé, j'ai droit à être indemnisé ». Voilà, Emmanuel Macron nous rappelle à nos devoirs.
Annabelle Grelier, merci beaucoup.
Les discussions sur l'assurance chômage avec les partenaires sociaux doivent aboutir à un projet de loi d'ici avril 2018, projet qui intégrera les propositions de réforme sur la formation professionnelle et l'apprentissage pour une rentrée en vigueur dès janvier 2019.
Et oui, la conférence des présidents d'universités réagit ce matin, elle s'inquiète de cette réforme de l'apprentissage précisément. François Germinet, qui est chargé des questions de formation à la CPU, affirme par exemple qu'elle va mettre tout l'apprentissage dans l'enseignement supérieur à mal. Il y aurait 20 000 places pour étudiants qui pourraient en pâtir. Alors expliquez-nous exactement le problème, Hakim Kasmi.
Oui, 20 000 places sur 70 000 en apprentissage au niveau national, eh bien c'est considérable quand on sait que l'apprentissage est l'une des voies pour lutter contre le décrochage scolaire à l'université. Rappelons qu'en France, eh bien 60% des étudiants de première année redoublent ou arrêtent à l'université, ce qui en fait l'un des plus mauvais taux de l'OCDE. C'est notamment le cas des bacs pro et des bacs techno pour qui, justement, l'apprentissage est une manière de pouvoir poursuivre ses études dans le supérieur. Concrètement, ce qui inquiète la CPU, ce sont les nouvelles pistes envisagées par le gouvernement pour réformer l'apprentissage, car il voudrait donner aux branches professionnelles et non plus aux régions la maîtrise de son financement. Or, la plupart des formations concernées sont interbranches. Résultat, des filières pourraient tomber et sont menacées. François Germinet, que nous avons pu joindre ce matin, vice-président de la CPU, qui est aussi le président de l'université de Cergy, nous expliquait que, par exemple, quand on construit une formation pour du management ou du marketing, elle s'adresse autant à l'industrie automobile qu'agroalimentaire. La CPU, qui estime aussi que le gouvernement cherche à privilégier, pour des raisons de communication, l'apprentissage dans le secondaire plutôt qu'à l'université, moins sexy, entre guillemets. Enfin, les présidents d'université ne peuvent s'empêcher de faire le lien entre la suppression annoncée de 20 000 places en apprentissage à l'université et parallèlement la création de 22 000 places par an que nécessite la hausse démographique et qui sont prévues par la réforme de l'université, mais qui pour l'instant ne sont pas totalement financés.
Hakim Kasmi, merci. 12h39, l'actualité à l'étranger avec cette première mesure d'apaisement de Madrid après la victoire des indépendantistes en Catalogne, des renforts policiers qui avaient été envoyés dans la province à l'occasion du référendum d'autodétermination. Eh bien, ces renforts ont commencé à quitter la région. La Catalogne reste naturellement sous administration directe du gouvernement central depuis le 27 octobre quand le Parlement régional a voté une déclaration unilatérale d'indépendance. Marie-Hélène Ballestero, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors on s'oriente peut-être sans doute vers la levée de ce fameux article 155 et Madrid pourrait lever ainsi la tutelle une fois que le nouveau Parlement catalan aura investi l'exécutif régional.
Oui, c'est bien ça Antoine. Comme vous le disiez, ce sont des mesures d'apaisement, de retour à la normale. Alors concernant les renforts policiers dont vous parliez, cela faisait 3 mois qu'ils avaient été envoyés en Catalogne à l'occasion du référendum illégal du 1er octobre. En tout, près de 10 000 hommes, selon le quotidien El País, mais les chiffres varient car le ministère espagnol de l'Intérieur est resté très discret sur ce sujet, à tel point que l'envoi de renforts de police en Catalogne a été classé secret d'État. Alors ces policiers et gardes civils vont donc être retirés progressivement. Ça va se faire jusqu'à samedi lundi prochain. En ce qui concerne la levée de l'article 155 qui avait permis au gouvernement central de placer la Catalogne sous tutelle après la déclaration unilatérale d'indépendance de la région, eh bien elle pourra être effective lorsque le nouveau Parlement catalan aura investi le nouveau gouvernement régional. Or, cela s'annonce comme un nouveau casse-tête. Inés Arrimadas, la chef de file du Parti libéral Ciudadanos, qui avait remporté ses élections régionales la semaine dernière, ne dispose pas de suffisamment de soutien pour obtenir la majorité absolue au gouvernement, au Parlement catalan, et donc ne pourra pas former de gouvernement. Le bloc indépendantiste devrait y arriver, mais pour cela, les trois listes séparatistes vont devoir négocier, et cela s'annonce compliqué, d'autant que le futur président catalan, qui devrait être normalement Puigdemont, est toujours en Belgique, et s'il décide de rentrer en Espagne, eh bien il sera vraisemblablement arrêté, puisqu'il est toujours poursuivi par la justice espagnole. Bref, l'article 155 a encore plusieurs semaines, voire mois devant lui, car tant qu'il n'y aura pas de nouvel exécutif régional en Catalogne, il continuera à être appliqué.
Marie-Hélène Ballestero, merci beaucoup en direct de Madrid.
Situation humanitaire toujours inquiétante en Syrie, en particulier dans la zone rebelle proche de Damas, dont l'armée syrienne fait le blocus.
Oui, il y a des évacuations médicales qui ont commencé pour des civils dans un état critique dans cette Ghouta orientale, donc cette zone rebelle effectivement assiégée depuis des années par le régime syrien, non loin de la capitale. Mais il y a près de 400 000 personnes qui sont encore prises au piège, touchées par de graves pénuries alimentaires et médicales. Magali Fichter, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc évacuation au compte-gouttes. Ce matin, quelques personnes ont pu sortir alors que le régime affiche son intention, évidemment, de reprendre le contrôle de toute cette région.
Et oui, parce que c'est l'une des dernières poches de résistance rebelle dans le pays. La Ghouta orientale fait partie de ce que l'on appelle les zones de désescalade, des zones où les belligérants s'engagent à réduire le niveau des violences. Il y en a quatre en Syrie, la Ghouta orientale donc, mais aussi dans la région d'Idleb au nord-ouest, dans celle de Homs au centre et puis aussi au sud du pays. Elles ont été créées en vertu d'un accord entre la Russie et l'Iran pro-Assad d'un côté et la Turquie pro-rebelle de l'autre. Mais malgré cela, le régime de Bachar el-Assad a intensifié ses bombardements sur la Ghouta orientale ces derniers mois. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 200 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tuées par les frappes gouvernementales depuis la mi-novembre. C'est donc dans ce contexte de bombardements, de blocus, de famine que l'ONU a demandé depuis des semaines de pouvoir évacuer environ 500 malades graves. Au moins 16 d'entre eux ont déjà succombé. Pour l'instant, les opérations d'évacuation sanitaire par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien ne concernent qu'une trentaine de personnes, les cas les plus critiques. Pour vous donner une idée sur les malades déjà évacués, on compte par exemple une fillette hémophile ou encore un enfant qui souffre d'une leucémie. Donc effectivement, il s'agit vraiment d'une évacuation au compte-gouttes et pourtant, c'est le résultat de longues négociations. Il s'agirait en fait d'un accord entre le gouvernement syrien et les rebelles du groupe Jaïch al-Islam, un accord qui prévoirait un échange de prisonniers. La Turquie et la Russie, encore une fois, seraient aussi derrière cette évacuation.
Nagali Fichter, merci beaucoup. La guerre au Yémen encore. Emmanuel Macron avait appelé dimanche le roi Salman d'Arabie Saoudite pour lui demander de lever le blocus contre le Yémen imposé par la coalition donc, que dirige le royaume wahhabite. Le président français fait part de sa préoccupation face à la catastrophe humanitaire dans ce pays. Donc toujours en guerre.
On parle maintenant de la sortie du film Tout l'argent du monde, une fresque familiale de Ridley Scott qui raconte l'enlèvement du petit-fils du milliardaire J. Paul Getty et dont le tournage avait été chamboulé, on s'en souvient, par des accusations d'abus sexuels contre l'acteur Kevin Spacey, remplacé à la dernière minute par Christopher Plummer.
Eh oui, mais c'est du jamais vu à Hollywood, hein, Christopher Plummer, 88 ans, qui a pris le relais au pied levé pour retourner les scènes où apparaît son personnage afin que le film puisse sortir comme prévu, donc à cette date et être éligible aux Oscars. Louis Valentin Lopez, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors d'abord, racontez-nous cette histoire assez étonnante du début à la fin.
Alors, pour bien comprendre, il faut remonter au dimanche 29 octobre, Antoine, et à ce témoignage du comédien Anthony Rapp. Il confie au site BuzzFeed avoir été agressé sexuellement par Kevin Spacey, une agression qui remonterait à 1986. À l'époque, l'acteur n'a que 14 ans. Spacey se serait littéralement jeté sur lui lors d'une soirée. On revient fin octobre 2017. La suite se passe sur les réseaux sociaux. Ce tweet de Kevin Spacey, accompagné d'un communiqué, il y présente ses excuses. Il se dit horrifié par le témoignage d'Anthony Rapp. La machine médiatique s'est mise en route, d'autres témoignages à charge tombent et les producteurs ne peuvent plus fermer les yeux pour Spacey. Fini la série House of Cards. Et puis Ridley Scott en rajoute une couche, donc il y a 6 semaines, Son nouveau film « Tout l'argent du monde » devient 0% Spacey, l'acteur occupé pourtant un rôle central dans le scénario. Scott décide donc d'évincer Spacey au profit de Christopher Plummer, 88 ans. Il retourne en vitesse toutes les scènes de l'acteur mis au banc, soit 22 scènes à reprendre. Mark Wahlberg et Michelle Williams se sont rappelés sur le tournage et le numérique vient même à la rescousse lors d'une scène dans le désert saoudien, impossible à retourner. Le corps de Plummer a été greffé sur Spacey.
Alors cet effacement de l'image donc de l'acteur, cette sorte de confusion entre représentation et réalité suscite quand même des interrogations et quelques critiques.
Oui, et si l'opinion est généralement acquise à la cause des présumées victimes, ce n'est pas l'avis de beaucoup de fans. Antoine, Anthony Rapp a publié en décembre des kyrielles d'insultes qu'il avait reçues. « Tu es un opportuniste, tu n'es pas une victime ». Ou encore, si tu voulais vraiment des excuses, tu te serais directement adressé à lui. Et puis cela s'inscrit en fait dans la continuité d'un long débat récurrent. En France, on le connaît avec Roman Polanski. Faut-il dissocier l'art de la réalité, le personnage de la personne? On connaît notamment Spacey pour ses rôles de grands méchants hollywoodiens. On se souvient du psychopathe glacé John Doe dans le thriller Seven. Tout récemment, l'impitoyable Frank Underwood dans la série House of Cards. Bon, cette fois, même s'il commet quelques meurtres, on adore son machiavélisme de politicien jusqu'au boutiste. Oui, sauf que tout ça, c'était de la fiction. Les accusations, elles, sont bien réelles. En tout cas, dans Tout l'argent du monde, Spacey devait de nouveau jouer le rôle d'un fumier, pardonnez-moi l'expression, le très fortuné J. Paul Getty, qui, lorsque son fils fut kidnappé par une bande de malfrats, refuse de payer la rançon. Résultat, une oreille coupée pour le fiston. Spacey, lui, se coupe de sa carrière et de son potentiel Oscar. Christopher Plummer est nommé à sa place.
Louis-Valentin Lopez, merci bien. On passe à notre troisième invité. La séquence interview sur le thème de la semaine, retrouver le fil de l'actualité. Et on est en compagnie du philosophe Dany Robert Dufour. Bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un livre sur la fameuse fable des abeilles de Bernard de Mandeville, fable qui date donc du début du XVIIIe siècle et que l'on peut prendre, en tout cas c'est votre thèse, Dany Robert Dufour, comme une matrice peut-être du monde contemporain. On va justement essayer de la faire passer à l'aune de l'actualité, mais d'abord, qui va sans doute nous aider facilement à voir comment. Et d'abord un mot sur ce logiciel Mandeville. On connaît la formule, en général on ne connaît que ça, la formule hein, qui est de dire que les vices privés font la vertu publique.
La vertu publique, c'est ça, oui. Alors effectivement, c'est un logiciel du libéralisme et qui va donc arriver jusque maintenant et qui décrit parfaitement notre monde actuel. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans la longue introduction que j'ai faite à ces textes de Mandeville, donc qui datent effectivement du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1710, etc., c'est de montrer que cet axiome est un axiome qui est en train de qui fait fonctionner notre
monde
actuel.
Est-ce que vous pouvez le reprendre, peut-être le reformuler?
Oui,
c'est-à-dire
bien sûr.
Que finalement, c'est pas qu'il faut être méchant pour que ça aille bien, mais c'est si les hommes laissent aller leur nature, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est mieux pour tout le monde.
Oui, alors la fable raconte l'histoire d'une ruche qui est riche parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Par exemple, un juge peut très bien demander des commissions pour arranger les affaires d'un plaignant. Avec cette commission, il peut se faire construire une belle maison qui il emploie un entrepreneur un peu véreux qui lui profite de mauvais matériaux, etc., etc. Et donc, la thèse de Mandeville, c'est que ça fonctionne très très bien comme ça parce que cela produit de la richesse.
Et si on fait contraire, ça ne marche pas. Si on met la vertu dans le système...
C'est la deuxième partie de la fable parce que les braves abeilles sont hantées par la culpabilité puisqu'elles sont toutes prises dans des opérations de vol, de mensonges, etc. Et elles décident subitement de devenir honnêtes. Et à partir du moment où elles deviennent honnêtes, la ruche diminue, s'appauvrit et finit dans le creux d'un arbre, convoitée par une autre ruche riche qui finalement prend possession de
voilà. Et la morale est assez facile à tirer de tout cela. Dany Robert Dufour, alors maintenant passons à l'actualité. En quoi ce principe-là que vous avez décrit dans cette fable se retrouve dans différents endroits de notre environnement contemporain?
Mais écoutez, nous sommes dans un monde, on l'a vu avec les Panama Papers, avec les Paradise Papers, avec donc toute une série de modalités selon lesquelles on peut contourner, dissimuler les lois, par exemple les lois nationales, qui sont les lois du travail, qui sont les lois fiscales, qui sont les lois environnementales. Et donc il y a toute un fonctionnement du droit qui est très étrange parce que au lieu de rendre la justice, il permet de contourner la justice et il permet
au nom justement de la fable de l'abeille, de la ruche finalement, au nom de l'intérêt de la ruche.
Au nom de l'intérêt de la ruche. Par exemple, vous pouvez prendre un exemple de ces grandes sociétés numériques, les fameux GAFA, qui ne payent pas d'impôts dans les pays où ils opèrent, parce qu'ils ont toute une série de moyens pour contourner donc les lois nationales. Et donc voilà, nous sommes dans une façon de contourner constamment la loi et donc de faire un certain nombre de choses qui sont pas justes, mais qui permettent justement la multiplication de des pains, quoi, la multiplication de l'argent.
Ça c'est possible parce que aussi finalement, il y a une mutation un peu anthropologique de vue du regard, c'est-à-dire que chacun est considéré comme un entrepreneur ou comme un commerçant.
Absolument.
Il doit mettre en valeur ce qu'il est capable de faire.
Absolument. Donc chacun possède un petit capital qu'il faut qu'il fasse fructifier.
Par exemple,
pendant
le cas des chômeurs, là, on voit que finalement, c'est leur responsabilité. On en a parlé dans le journal. C'est
exactement.
Leur responsabilité de savoir se débrouiller. Et puis, comme on les aide, il faut, c'est normal qu'ils soient contrôlés.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a donc une dimension où chacun devient un entrepreneur de soi et doit faire fructifier son capital, quel que soit son capital. Alors évidemment, ceci donc produit toute une série d'injustices considérables, parce que ces braves chômeurs, par exemple, on leur demande un certain nombre de choses, mais pendant ce temps-là, on donne à d'autres, par exemple avec la modification de l'impôt sur la fortune, les 100 premières familles ont gagné en moyenne chacune 500 000 euros par an. Pendant ce temps-là, on contrôle les chômeurs.
Oui, mais ça aussi c'est utile, parce que ça permet un ruissellement de la richesse.
Ah oui, bien sûr, c'est la fameuse théorie du ruissellement, dont on sait qu'elle ne fonctionne pas du tout, puisque tout montre que les inégalités de par le monde augmentent d'une façon considérable. Et justement, ça ne ruisselle pas. Alors, ce qui est intéressant chez Mandeville, c'est qu'il dit tout d'une certaine façon. On est au début de la révolution industrielle, on est en 1710, et il dit tout. Il dit soyez voleurs, soyez roublards, soyez menteurs, il faut permettre la prostitution, le vol est excellent, parce que si vous avez 1 million de voleurs, dit-il quelque part, vous aurez 1 million de personnes qui devront refaire les produits que les voleurs ont subtilisés. Donc tout ça est bon, finalement. La destruction est bonne, le grand incendie de Londres était excellent parce qu'il a fallu reconstruire complètement Londres. Et donc, toutes ces...
C'est ce qu'on appelle l'utilitarisme, peut-être ?
Oui, absolument, oui, bien sûr. Tout ça est finalement très utile.
L'utilitarisme paraît, comme morale, en fait.
C'est ça. Tout ce qui paraît, au premier abord, répréhensible du point de vue de la morale, finalement, du point de vue des conséquences, c'est le conséquentialisme, c'est l'utilitarisme, peut apporter, finalement, des bienfaits qui ne sont pas du tout... il n'y a plus donc du tout à considérer la vertu des actions que l'on dans lesquelles on s'engage, mais les conséquences de ces actions. C'est la théorie donc utilitariste. Alors l'intérêt de Mandeville, c'est qu'il nous dit tout. Il nous dit tout, donc il faut mentir, il faut voler, il faut permettre la prostitution, il faut fermer les institutions de charité pour les jeunes pauvres.
Et bon, ça au nom de quoi, par exemple, fermer les...
Parce que ça fait disparaître donc une main d'œuvre qui va être formée et qui va ne plus vouloir faire des tâches pénibles. Donc pour que main d'œuvre puisse continuer à être employée, il ne faut pas former les enfants de pauvres, les accueillir dans des maisons de charité.
Alors, tout cela, quand même, se passe. On revient peut-être aussi à aujourd'hui, avec le film de Ridley Scott, par exemple, je ne sais pas. Mais c'est quand même un amoralisme, en tout cas, au sens traditionnel du terme.
Absolument.
Et cependant, il y a quand même beaucoup de morale qui revient.
Tout à
alors,
fait.
Comment vous expliquez ce paradoxe?
Écoutez, c'est... Mandeville dit tout. Il dit trop. Et donc, il faut le cacher, il faut le dissimuler, il faut le refouler. Et c'est ce qu'on a fait avec Mandeville, qui était extrêmement célèbre au XVIIIe siècle. Célèbre pour les scandales, le scandale de sa pensée. Et donc, il a été condamné par le grand jury de Londres. Son livre a été mis à l'index et brûlé sur la place de Paris. Et ensuite, il a été occulté jusqu'au XXe siècle. C'est pour ça qu'il faut le sortir. Et c'est pour ça que je le ressors.
Voilà.
C'est
jusqu'à
parce que, justement, ils disent tout.
Oui.
Alors, ils disent tout. Et donc, c'est le problème. C'est que... si je puis dire, si vous me permettez d'utiliser ce syntagme, en même temps, il faut tout cacher.
C'est ça, il faut tout dire et tout cacher, d'où...
Il faut tout dire, donc il dit tout, mais en même temps, il faut tout cacher. Donc, il y a donc une surcouche, qui est une surcouche moralisante, qui apparaît sur toute une série d'actions, qui vient masquer ces actions. Donc, par exemple, dans ce film, il faut faire disparaître numériquement cet acteur, ou il faut le remplacer, etc., et la morale, donc, paraît sauve. Donc, en même temps que ce principe, qui est un principe extrêmement prédateur, s'affirme, il faut affirmer en même temps, si je réemploie ce syntagme qui, vous le savez, n'est pas tout à fait de moi, il faut en même temps affirmer donc une surcouche morale qui dissimule et qui masque l'ensemble de ces opérations prédatrices.
N'est-il pas vrai, malgré tout, que la liberté laissée aux personnes permet une meilleure société à l'intérêt de tous ?
Oui, bien
sûr. La main invisible.
Oui, bien sûr. Ça, oui, bien sûr. Il y a des aspects qui sont des aspects qui apportent des bénéfices aux personnes par rapport à donc une emprise qui serait une emprise tyrannique. Bon, mais le problème, c'est que il se produit donc toute une série d'actions qui sont des actions entreprises au nom de l'intérêt et au nom de l'égoïsme, et comme ça c'est pas très beau à voir, donc il y a toute une série de dissimulations dans le discours, et il faudrait nous avons un président qui est très habile justement dans la juxtaposition de ces deux types de discours. Et je crois que là il faudrait essayer d'analyser ceci comme une opération rhétorique ou une opération sophistique qui consiste à dire une chose et en même temps je reprends encore dire la chose contraire de façon à dissimuler un peu ce qu'on ne peut pas affirmer aussi crûment.
Dany Robert Dufour, j'appelle que La Fable des abeilles est éditée en poche chez Pocket, donc avec une longue introduction de vous sur l'écho du texte dans l'histoire, ou le peu d'écho finalement qu'il a eu. Je recommande aussi le fameux texte sur l'apologie des maisons de joie, qui a eu aussi beaucoup de succès à l'époque. Demain, on est avec l'historienne Sophie Vanisch. Il y a 3 départements qui restent concernés par la vigilance orange vent violent, l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, temps généralement instable cet après-midi, 5 à 15 degrés du nord au sud, édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal des 8h avec Lise Verbeck.